Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous sommes dans une forêt primaire. Un paradis vierge de toute activité humaine. Ici, il n'y a plus de sentiers, mais une nature réensauvagée, peuplée de loups, de lynx et de bisons. Cette forêt en liberté est loin d'être un fantasme. Certains militent pour son retour en France, quand d'autres pensent qu'il n'est pas bon de revenir à la loi de la jungle. À l'heure où les forêts gagnent du terrain en France, peut-on se permettre d'abandonner toute logique économique pour laisser des hectares non domestiqués ? Est-ce une bonne idée pour la planète ? Aujourd'hui, l'arbre est notre meilleur allié pour lutter contre le réchauffement climatique. Il devient un bouclier, y compris en ville. La prise de conscience est énorme, si bien que la vision d'un arbre en train d'être coupé fait mal. Et pourtant, le paradoxe, c'est que les Français aiment le bois dans leur maison. Charpente, jouets, feu de cheminée, c'est quand même mieux que le plastique. D'où le débat, couper des arbres, est-ce bon pour l'environnement ? Comment retrouver une gestion durable de nos forêts ? On est ensemble jusqu'à 13h sur France Inter.
Paola Puerari. Le débat de midi sur France Inter.
Et pour ce débat sur l'arbre, sur la forêt, nouveau totem ou en tout cas sujet qui se politise, la preuve, nous avons reçu énormément de réactions sur la page du débat de midi, signe que la question exacerbe les tensions. Et pour débattre, j'ai à ma table un activiste, arboriste, grimpeur. Bonjour Thomas Braille.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du Groupement National de Surveillance des Arbres et aussi un homme perché car il vous arrive régulièrement de vous accrocher à des platanes pour empêcher leur abattage. Bienvenue à Tamouz et Lou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur forestier, secrétaire général de l'Union des coopératives forestières, premier gestionnaire des forêts privées françaises et ça représente quand même 2,1 millions d'hectares. Bonjour également à Paloma Moritz.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et réalisatrice en charge de l'environnement pour le média indépendant Blast. Et enfin avec nous en duplex de Lyon, Pierre Athanas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de la métropole de Lyon en charge de l'environnement et de sa végétalisation. Et on commence tout de suite avec votre témoignage, Thomas Braille, puisque vous hissez régulièrement en haut des cimes pour militer contre l'abattage des arbres. Comment ce combat a-t-il commencé ?
Alors déjà, merci de m'avoir invité. Je voulais juste signaler que je ne me définis pas comme activiste, mais comme simple citoyen et arboriste grimpeur, c'est mon métier. Comment ce combat a commencé ? Il a commencé en 2019 à Mazamé, dans le Tarn, où le maire avait un projet d'abattre 9 platanes âgés de plus d'une centaine d'années. Et moi, ayant travaillé dans cette ville en tant que jardinier pendant 10 ans, je connaissais bien ces arbres. Et il était inconcevable pour moi que ces arbres tombent parce qu'ils avaient tout leur rôle à jouer. Ils étaient carrément en plus à l'aplomb d'une route, donc voilà. Et j'ai passé 3 jours donc dans un platane et sur les 9 qui devaient être abattus, j'en ai sauvé 7. 2 sont tombés et voilà. Et suite à la médiatisation, bien entendu, tout ça s'est arrêté quoi.
Et alors pourquoi vous n'aimez pas le mot activiste ?
Parce que je trouve qu'aujourd'hui on met un petit peu tout le monde dans des boîtes, ça fait des clivages, je trouve. Moi, je suis simple citoyen de cette planète et j'estime que mon métier c'est les arbres et que j'ai toute légitimité à en parler, à les défendre, puisque je les grimpe dans ma profession. Donc voilà, moi je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que.
Alors pourquoi vous le faites justement ?
Ben voilà, parce qu'il y a un petit garçon qui est en régie, qui est mon fils, qui a 6 ans aussi et que j'aime plus que tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir retrouver un petit peu plus d'humilité par rapport au monde du vivant et au végétal. Et se dire que c'est pas nous, c'est pas les arbres qui ont besoin de nous, c'est nous qui avons besoin des arbres. Voilà.
Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez passé 28 jours accroché à un platane devant le ministère de l'écologie. Est-ce que vous avez l'impression que l'État prend conscience de cette urgence climatique ?
Alors, je suis désolé, je suis un petit peu en rupture avec le gouvernement parce que j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec eux, avec le ministère de la Transition écologique. À l'époque, c'était Madame Borne qui était ministre de la Transition écologique. Et justement, j'ai fait du bruit par rapport à un article de loi qui est le L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement en bonne santé. Et en 1 an et demi de travail, cet article de loi a régressé. Donc maintenant, il est en décret d'application, mais il est encore moins protecteur que ce qu'il était. Donc aujourd'hui, les préfets donnent des dérogations pour abattage et on voit nos arbres tomber un petit peu partout. Et là, pour info, à Champigny, on nous a appelé cette semaine, 180 platanes vont être abattus dans une allée pour refaire l'allée, quoi. Voilà.
Paloma Moritz, comment est-ce que vous voyez la société changer de regard? Parce qu'il y a encore quelques années, des actions comme celle de Thomas Braille étaient aperçues de façon insolite, alors qu'aujourd'hui, les riverains se positionnent et le contactent pour alerter contre ces abattages.
Oui, il y a quelque chose qui est en train de changer parce que je pense qu'on se rend compte qu'on a un lien sensible aux arbres en fait qui nous entourent et aux vivants qui nous entourent de plus en plus et à la fois en même temps Baptiste Morisot en parle très bien, philosophe qui parle de la crise de la sensibilité et il dit en fait que on a tendance à croire que nous sommes la seule forme de vie intéressante alors que nous sommes des vivants parmi les vivants et que nous avons besoin justement des arbres pour pouvoir vivre et respirer et puis on en parlera sûrement faire face notamment aux effets du dérèglement climatique et de plus en plus de personnes prennent conscience de ça et ont aussi fait, par exemple, pendant l'été 2022, le deuil de forêts qui les entouraient, dans lesquelles ils avaient l'habitude d'aller se balader, etc. Et ça a été des événements assez traumatisants, en fait, pour beaucoup de Françaises et Français. Et je pense que, voilà, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte aujourd'hui qu'on
a besoin
de ce vivant, y compris en ville, et que c'est grâce à ce vivant qu'on va s'en sortir. Et ce n'est pas en menant une guerre contre lui, et c'est ce qu'on fait, malheureusement, aujourd'hui. La première cause d'extinction de la biodiversité, c'est la destruction des habitats.
Tamouz Elou, vous qui êtes ingénieur forestier et qui gérez des millions d'arbres, vous avez une idée du chiffre? Non, on ne peut même pas compter le nombre d'arbres gérez via cette coopérative.
C'est en milliards.
En milliards. Comment est-ce que vous voyez l'action d'un défenseur des arbres comme Thomas Braille qui se bat pour quelquefois 1, 2, 3, 20 arbres?
Mais alors, en tant que forestier, nous, on adore les arbres. Tout forestier aime les arbres et c'est vraiment le sujet principal. Après, nous, on évolue dans le milieu forestier, c'est-à-dire que nous, l'arbre, c'est pas le tilleul, le marronnier ou le platane. Nous, ce sont des centaines d'arbres par hectare. Donc, un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Et on en gère des milliers. Donc, on le voit de façon plus globale. On gère un écosystème qui est très complexe sur un temps très long, qui est l'arbre. Et avec un regard de multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'on regarde la forêt avec un rôle économique pour produire du bois dont la société a besoin, un rôle écologique, abriter la biodiversité, et bien évidemment un rôle sociétal qui fait que tout le monde adore se promener en forêt.
Et néanmoins, comment est-ce que vous qualifierez cette action? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une question de l'arbre qui est devenue un peu émotionnelle, ce qui fait qu'on a du mal à en parler de façon rationnelle?
En fait, moi, je distinguerai les cas. Il y a forcément de quel arbre on parle. Si c'est l'arbre multicentenaire qui est un cèdre dans un parc, effectivement, il faut le protéger. Effectivement, il est joli. Son rôle, c'est d'être de l'agrément, je dirais, d'arriver à pouvoir se promener avec des enfants autour d'un bel arbre. C'est majestueux. Est-ce qu'il faut l'élaguer? Est-ce qu'il faut le couper? Je pense qu'il y a des spécialistes qui vont pouvoir se dire, tiens, en termes de sécurité, faut-il le faire ou pas? Moi, je suis moins dedans. Les forestiers pourraient peut-être avoir un apport au niveau des arbres, des arboristes, je dirais. Mm-hmm. Et bien sûr, l'arbre en ville, il faut ramener la nature en ville. C'est évident. C'est très minéral, c'est de la pierre. L'arbre en ville, c'est du paysage, c'est du carbone qui est stocké également. L'arbre en ville, il est très maltraité. Mais ça, je pense que Thomas Paille pourra en parler davantage. Et donc, du coup, il apporte un confort. Il n'apporte pas une production de bois.
Bien entendu. Pierre Athanase, vous qui êtes président de la métropole de Lyon en charge de l'environnement et de la végétalisation, de temps en temps, il faut couper des arbres en ville qui sont malades ou dangereux. Est-ce que ça génère des conflits dans la métropole de Lyon?
Alors, on essaye d'anticiper, évidemment, ces conflits. La métropole de Lyon, cette saison, a planté 24 884 pour être précis. Et bon an, mal an, on abat entre 300 et 500 arbres pour des raisons sanitaires. Soit les arbres sont malades, soit les arbres sont dangereux parce qu'ils sont devenus creux, parce qu'il y a des champignons. Voilà. Donc, on fait cet équilibre-là. Et pour bien informer la population et surtout les riverains qui sont au contact de ces arbres tous les jours, ces arbres appartiennent au quotidien de la vie des Grands Lyonnais, quand on doit les abattre, on fait une information au pied par pied. C'est-à-dire que sur l'arbre qui va être tombé, on met une affiche en disant, bah voilà, l'arbre va être abattu, on laisse un délai d'à peu près 2 semaines, pour telle et telle raison. Et il y a un numéro de téléphone du technicien qui gère le secteur. Si le riverain se pose des questions, est-ce que l'abattage est justifié? Moi, je ne comprends pas, l'arbre, il est toujours vert et pourtant on me dit qu'il est en mauvais état. Il peut appeler le technicien et avoir une conversation directement avec lui. Et ça nous évite évidemment énormément d'incompréhension et globalement, ça se passe bien. Alors après, et j'entendais bien Thomas Braille tout à l'heure parler effectivement de ces abattages lorsqu'il y a des projets d'aménagement, des projets d'urbanisme et tout, on est évidemment confronté à ça. Or, nous, sur la métropole de Lyon, on est quand même dans une dynamique où on plante beaucoup plus d'arbres. Mmh. On a vraiment multiplié le budget et les plantations depuis notre arrivée, il y a 3 ans. Mais de temps en temps, effectivement, parce qu'on va faire un tram, parce qu'on va faire, on va construire une école, etc., il faut abattre des arbres qui sont sains. Donc là, c'est vraiment de l'information, c'est des réunions publiques, c'est vraiment expliquer pourquoi. On fait vraiment le maximum pour garder les arbres, une fois que le chantier va être fini, mais surtout, parce que c'est là que l'arbre souffre le plus, c'est pendant sa phase chantier. Mmh. Donc c'est effectivement énormément de travail par rapport à ça.
Et alors, vous avez beaucoup planté, mais est-ce que c'est possible de créer des forêts urbaines? Est-ce que ça fonctionnerait, par exemple, dans une ville comme Paris?
Alors, Paris a des difficultés, donc il avait annoncé la création de plusieurs forêts urbaines et un petit peu des difficultés pour les réaliser. Sur Lyon, on a plus de chances. Alors, parce que aussi, je parle bien de la métropole de Lyon qui comprend Lyon, mais également 58 autres communes avec un territoire qui est plus grand, qui est plus varié. Mais même en centre-ville, pour ceux qui connaissent Lyon, à la sortie de la gare de la Part-Dieu, nous allons créer un boisement d'un hectare 100, vraiment un hectare avec de la plantation forestière. On ne sera pas dans un square, on sera vraiment dans un boisement d'un peu plus d'un hectare qui va communiquer avec des espaces verts qui sont proches, qu'on va agrandir, qu'on va planter de façon plus dense. Mais le fait d'avoir de véritables forêts en milieu urbain, même si effectivement c'est petit un hectare, je le conçois, mais ça va être de véritables îlots de rafraîchissement. Et ça va être des îlots de biodiversité. Et ça, c'est vraiment très important.
Parce qu'il y a cette idée que quand on coupe un arbre en ville, on peut compenser par le fait d'en planter un autre. Mais ça, un auditeur n'est pas du tout convaincu. Il s'est enregistré sur l'application France Inter.
Il y a un sujet qui mérite, selon moi, des données statistiques chiffrées précises. Ce sont tous les arbres, les jeunes arbres que l'on plante pour compenser des abattages parfois abusifs et que l'on voit surtout en ce moment sécher, griller au soleil sous des températures extrêmes. Les compensations sont souvent un écran de fumée, un leurre, mais quand en plus on laisse mourir les arbres sur place, ça devient un scandale.
Merci Thomas et n'hésitez pas à réagir sur l'application France Inter. Thomas Braille, quand on coupe un arbre, il suffit d'en planter un autre ?
Non, c'est plus comme ça que ça marche aujourd'hui, ça s'est terminé. Aujourd'hui, on atteint des températures tellement caniculaires maintenant les étés que les jeunes plantations que l'on fait dans l'hiver, j'en ai notamment repéré en venant gare d'Austerlitz, il y en a plein d'arbres qui sont morts. En fait, ça fonctionne plus. À partir de 40 degrés, un végétal ferme son système hydrique. Il n'est plus en capacité d'absorber, soit par les racines, soit par les poils absorbants qu'il a sous les feuilles. Et donc, là, on assiste vraiment à un vrai dépérissement. Et les seuls arbres de valeur aujourd'hui et qui passent les canicules, ce sont les grands arbres majestueux que vous avez dans les villes, et notamment les platanes. Les platanes, ils subissent pas la canicule. Hein. Ils sont toujours là, ils sont présents parce qu'ils ont un système racinaire qui est fort et puissant. Mais les arbres que l'on va planter maintenant, aujourd'hui, avant il fallait les suivre à l'arrosage pendant 2-3 ans, maintenant je ne sais pas combien de temps il va falloir les suivre, mais comme je vous ai expliqué, à partir de 40 degrés, il n'est plus en capacité d'absorber de l'eau, donc vous l'arrosez en fait et il meurt quand même.
Ah oui. Paloma Moritz, d'ailleurs, vous dénoncez un genre de greenwashing, c'est-à-dire qu'on dit bon bah c'est pas grave, on coupe un arbre, mais on va en replanter un, vous pouvez prendre l'avion, d'ailleurs vous allez donner 1 € pour replanter des arbres à l'autre bout de la planète.
Alors, c'est plutôt sur ça, oui, qu'il y a le greenwashing. C'est qu'aujourd'hui, on a un peu cette idée qu'on va pouvoir compenser nos émissions de CO2 et donc pouvoir avoir exactement les mêmes modes de vie tant qu'on plante des arbres à peu près partout. Alors déjà, il n'y a pas assez de surface dans le monde pour planter assez d'arbres pour compenser nos émissions. Et ensuite, c'est un leurre parce qu'il y a une question de temporalité. Quand on prend un avion, par exemple, et qu'on nous propose donc de donner quelques euros supplémentaires pour compenser ce vol avec de la plantation d'arbres, eh bien, en fait, quand on prend un avion, le CO2, il est émis directement dans l'atmosphère et donc il réchauffe directement le climat. Et les arbres qui vont être plantés pour compenser ces émissions-là, en fait, ils vont mettre plusieurs années, parfois 20 à 30 ans, pour absorber en fait ce CO2. Parce qu'un arbre, quand il est très jeune, il absorbe peu de CO2 parce qu'il a peu de feuillage, il a peu de tiges, etc. Et surtout, à condition que cet arbre ne dépérisse pas à cause de la sécheresse ou des effets du dérèglement climatique, ce qui se passe de plus en plus en France. On a une mortalité des arbres qui a augmenté de 54% en 10 ans, c'est complètement hallucinant. Et si cet arbre ne brûle brûle pas. Parce qu'en fait, quand l'arbre brûle, il libère la grande partie du CO2 qu'il a absorbé. Donc c'est aussi, on utilise en fait les arbres aujourd'hui, malheureusement, pour faire du greenwashing sans comprendre la façon dont les choses sont faites. Et la dernière chose, c'est aussi que souvent dans les projets de replantation, ce sont des projets où on va planter qu'une seule espèce d'arbre, ce qui n'est pas forcément très bon pour la biodiversité et qui est encore moins bon pour que les forêts soient plus résistantes justement aux canicules et aux feux de forêt, parce que quand on a une seule même espèce d'arbre, en fait, les forêts vont brûler beaucoup plus vite.
Tamou Zélo, justement, en tant qu'ingénieur forestier, en termes de stockage de carbone, est-ce qu'un arbre jeune vaut autant qu'un arbre vieux et mature ?
Alors, il y a plusieurs sujets. Tout à l'heure, on parlait des arbres. Il y a la beauté de l'arbre. Là, quand on parle d'un arbre en ville qu'on a coupé et qu'on va rassurer les citoyens pour dire on va reboiser
derrière. Mais sur le stockage de carbone, juste, est-ce qu'un arbre jeune aspire et stocke autant de carbone qu'un arbre vieux, mature, centenaire?
Un arbre qui est en pleine croissance va absorber plus de carbone qu'un arbre qui est sénescent. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est sur quelle temporalité on parle. Et après, la question que nous, on voit en tant que forestier, c'est quand l'arbre est jeune, c'est-à-dire qu'avant lui, il y avait un autre arbre. Donc maintenant, qu'avons-nous fait du bois, le bois qui stocke le carbone dans des produits qui sont majestueux, la charpente de Notre-Dame, par exemple, qui est utilisée il y a 800 ans, elle a stocké du carbone pendant 800 ans. Rendez-vous compte. Et donc, maintenant, il y a d'autres projets qui permettent de dire, tiens, quel usage du bois qui est fait ? Il stockera du carbone et ce bois-là va venir peut-être en substitution d'autres énergies ou d'autres matériaux qui seront plus énergivores et qui seront, d'un point de vue carbone, très très négatif.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, couper et renouveler la forêt, quelque part, c'est un acte écologique.
Exactement. C'est un acte écologique dès lors qu'il est fait dans des règles qui sont carrées. Donc nous sommes basés en France. Donc couper un arbre en France dans une forêt qui est gérée, qui a un document de gestion validé par l'État, effectivement, c'est un acte écologique plutôt que de couper un arbre, j'allais dire, dans d'autres pays du monde, et sans parler du transport. On sait ce qui est fait en France. Et utiliser du bois, c'est écologique.
Thomas Braille, vous êtes d'accord avec...
Oui et non. Si on parle que des forêts avec des modèles économiques, enfin, c'est même pas des forêts, on appelle ça des plantations, c'est-à-dire qu'on va planter le même arbre en rang d'oignons. Sur ce modèle économique-là, non, je suis pas d'accord, parce qu'ensuite, on va passer sur de la coupe rase et puis on va replanter, mais on n'est pas du tout sur un modèle de forêt. Par contre, si on parle de forêt gérée en futaie irrégulière, avec des arbres de différentes hauteurs, avec une gestion durable et toujours un couvert végétal qui va protéger le sol, là, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Le bois, on en a utilisé depuis la nuit des temps. On en a toujours besoin, on en aura toujours besoin. Mais ce qu'on déplore aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense que les médias ont été assez informés qu'il y a 15 jours, on a réalisé une action avec Canopée au siège d'Alliance Forêt-Bois à Bordeaux pour dire stop aux coupes rases, ça suffit, quoi.
C'est-à-dire à la logique industrielle, finalement,
exactement,
de la forêt dominée
exactement.
Par une économie du bois, c'est
tout
ça?
Tout à fait, parce que dans ces forêts-là, il faut savoir qu'il n'y a aucune biodiversité, plus aucune biodiversité. On nous dit que les arbres sont matures à 40 ans, c'est faux. Un Douglas, ça peut vivre bien plus, on peut sortir bien plus de matière d'un Douglas. Mais cet arbre-là, j'ai envie de dire, on le dépeint en permanence, mais c'est un arbre magnifique, le Douglas, mais mixé avec d'autres arbres parmi des feuillus, parmi des forêts diversifiées, oui. Mais il va falloir aussi penser à revaloriser les bûcherons qui ont des tronçonneuses à main, plutôt que de faire que de l'industrialisation avec des grosses machines qui abîment tout, quoi.
Tamou Zélo, à partir de quel âge, pour vous, un arbre est considéré comme mature ?
Tout dépend de l'usage qui va être fait. Nous, en tant que forestiers, on raisonne sur trois piliers. Un pilier économique, un pilier écologique, un pilier sociétal. Et il n'y a pas une forêt en France, il y a des forêts en France. Vous avez 3,4 millions de propriétaires forestiers qui ont leur propre vision de leur forêt. Et vous avez autant de situations différentes. Donc du coup, il n'y a pas de nécessité de dire à tel âge, il faut couper ou pas couper. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des produits bois dont la société française a besoin. Et selon les situations, certains résineux, vous allez les récolter à 40 ans, 45 ans, d'autres à 80 ans, d'autres à 120 ans. Et pour les feuillus, c'est le même principe.
Et aujourd'hui, on coupe les arbres comment ? Alors, à la main, avec une tronçonneuse, avec des machines, comment ça se passe ?
Alors, heureusement, notre filière a évolué. C'est quand même quelque chose qui était important. On se modernise, contrairement à ce que certains peuvent penser ou imaginer. On récolte des arbres avec... Quand c'est du résineux, souvent des machines qui permettent d'assurer une sécurité pour les personnes, qui est le point prioritaire numéro un pour nous, qui leur permet également d'avoir une ergonomie dans leur travail. C'est-à-dire qu'un bûcheron qui travaille à 20 ans, à 50 ans, il a le dos cassé, s'il est encore vivant. Est-ce que c'est viable ? Est-ce que c'est durable ? Donc non. Donc les machines remplacent certains bûcherons. Par contre, ces bûcherons-là, on en a énormément besoin pour certains types d'arbres, les gros feuillus, les arbres en pente. Et donc du coup, on a besoin de tout. Et c'est ce mélange-là que tous les forestiers utilisent et essayent de gérer au mieux selon leur situation.
Thomas Braille, justement, sur cette question des machines.
Il faut savoir qu'une machine, ça prend le travail de 10 à 15 bûcherons. Donc voilà, ça déjà aussi c'est de la perte d'emploi, clairement. Mais j'ai envie de dire, comme je le disais, si ces métiers-là, ils étaient mieux valorisés, ça
donnerait... Mais sur la question des diamètres, par exemple, parce qu'il y a cette idée que la machine...
Alors, il faut savoir que les têtes abatteuses, donc, ce sont ces machines avec des grands bras, des bras télescopiques, avec une pince et une tronçonneuse au bout. Ces machines-là, elles sont équipées pour récolter un diamètre de 40. Donc, quand on dit qu'un arbre est à maturité à 40 cm, il n'est pas du tout à maturité. Il est adapté, la machine, enfin, l'arbre est récolté parce qu'il est adapté à l'outil et à la machine. C'est tout, quoi.
Tamouzelou, pardon, excusez-moi. Je vous voyais faire non de la tête.
Non, mais là, c'est une caricature. En fait, moi, je viens du terrain, je suis ingénieur forestier, je connais très bien ce secteur du machinisme forestier. Dire que les machines coupent des arbres à 40 cm, c'est totalement faux. C'est rendre le débat binaire. Et moi, sur France Inter, aujourd'hui, j'ai envie qu'on apporte à vos auditeurs des éléments factuels, de compréhension. Une machine, ça peut couper des arbres qui ont 15 cm de diamètre. Ça peut le faire aussi avec 70 cm de diamètre. Les raisonner uniquement pour dire c'est que ça et ça détruit la forêt, absolument pas. On a des guides, on a des formations. Je pose une question. Est-ce que vous avez des salariés à qui vous pouvez dire, ben voilà, utilisez une tronçonneuse et puis ce soir, peut-être que vous rentrerez vivant chez vous, peut-être pas. Est-ce qu'en 2023, c'est audible? Non. Est-ce qu'on a des bûcherons en France? C'est compliqué. Qui veut devenir bûcheron?
Et justement, d'ailleurs, les bûcherons sont souvent victimes d'incivilité aujourd'hui.
Malheureusement, parce qu'en fait, dans ce débat caricatural qui est porté par certains, ils sont les premières victimes d'actes de vandalisme que nous dénonçons. Thomas Braille a évoqué une action illégale menée il y a 15 jours que nous dénonçons également sur des rapports qui sont mensongers et qui rend le débat binaire. Et moi, j'aimerais bien sortir de ce sujet-là. Les bûcherons font le travail de la meilleure façon possible. Et je les remercie. Les travailleurs forestiers, les entreprises de travaux forestiers, partout en France, font un travail compliqué. Là, aujourd'hui, il pleut sur Paris. C'était de la canicule il y a un mois. Ils se lèvent, ils travaillent à 7h du matin, ils rentrent fatigués et sur des réseaux sociaux, ils voient des bobos qui commandent des messages pour dire « vous détruisez la nature ». C'est absolument pas ça. Il y a du professionnalisme en forêt. On est une filière dynamique. Maintenant, notre enjeu, et je pense un enjeu commun, c'est d'arriver à dire « comment pouvons-nous faire mieux ?»
Paloma Moritz.
Oui, moi j'ai une question pour vous parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler du travail que fait Laurent Tillon qui est responsable biodiversité à l'Office national des forêts et qui fait quelque chose qui me semble assez intéressant, c'est-à-dire en fait de s'inspirer du fonctionnement de la nature pour gérer les forêts et de dire que le premier filtre pour ça c'est la biodiversité. Et donc en fait d'avoir une gestion partagée des forêts, c'est-à-dire à la fois des îlots de biodiversité, donc des endroits qu'on laisse entièrement tranquilles, on laisse la nature tranquille, des corridors pour les animaux et d'autres endroits où on va couper le bois, enfin certains arbres, mais pas tous les arbres, on va en laisser certains qui vont abriter des espèces et qui vont aussi réguler un peu les écosystèmes. Et en fait, tout ça, de prendre la biodiversité comme premier prisme, leur permet d'avoir un très bon rendement en bois, mais aussi de rendre les forêts plus résistantes à la fois aux maladies, au réchauffement climatique, etc. Et c'est quelque chose qu'il a commencé à expérimenter dans la forêt de Rambouillet. Et moi, je me demandais pourquoi est-ce que cet exemple-là, il n'est pas répliqué beaucoup plus massivement en France et pourquoi il n'y a pas des moyens qui sont donnés à ça.
En fait, on a une réponse, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des forêts françaises. Après, ce qui nous dessert au niveau forestier, c'est le temps long. Ce que fait les exploitations de l'ONF sont très intéressantes pour tous les forestiers, que ce soit des gestionnaires forestiers publics ou privés comme pour les coopératives. On observe ce qui se passe, mais le temps, l'inertie forestier fait que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut savoir comment se passer. Après, on
mais
produit...
Mais si on commence pas maintenant, on peut encore moins savoir.
Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'a pas commencé maintenant?
Je vous pose la question, justement.
Oui, on a déjà commencé. Les travaux de Laurent Tillon sont ici. 30 ans avant lui, il y avait d'autres travaux. 50 ans avant lui, il y avait d'autres travaux. L'école des eaux et forêts date d'il y a maintenant au moins 200 ans. Et ce que l'on sait aujourd'hui en 2023 ne sera pas forcément la vérité de 2123.
Pierre Athanas, justement, vous vouliez intervenir. Est-ce que vous trouvez donc ce débat un peu binaire?
Voilà, mais avec des choses intéressantes. Alors, je vais revenir peut-être sur quelque chose qu'a dit tout à l'heure Paloma Moritz hein, sur le fait des aliments monospécifiques, et elle a complètement raison. Autant sur les alignements en ville, à une époque, on identifiait les villes ou on identifiait les rues selon les essences. Maintenant, il faut absolument mélanger les essences. Et il suffit pas de mélanger les essences. Ce qui est important, c'est de mélanger les strates. Il faut absolument que dans nos villes, pour les rafraîchir, et ça c'est vraiment très important, on est vraiment dans une course actuellement contre le dérèglement climatique et contre les températures, contre les canicules. Il nous faut absolument planter des alignements avec des très grands arbres, des arbres plus petits, des grands arbustes et des couvre-sols. On a sur la métropole de Lyon, à Lyon même, dans le quartier de la Part-Dieu, une station qui enregistre deux sites différents, un alignement très régulier de platanes et ce même alignement qui a été planté il y a quelques années avec des strates intermédiaires, et on a des résultats qui sont juste énormes en matière de température. C'est 4,7 degrés en moyenne sur les 4 mois d'été. En période de canicule, c'est 7,2 degrés qui sont gagnés. Donc évidemment, il faut revoir complètement la façon de planter nos arbres en ville. Et par rapport à ce que disait Thomas Braille, effectivement, c'est plus dur de planter maintenant qu'il y a quelques années. Mais il faut aussi revoir les principes de plantation.
Et on va continuer.
On évite au maximum de planter des arbres, un et puis un autre, et puis un autre, mais de faire des banquettes continues, de récupérer l'eau de pluie, et on est vraiment dans une stratégie de désimperméabilisation sur la métropole de Lyon, de façon à récupérer l'eau de pluie, déjà ne va pas dans les stations d'épuration, elle est utilisée sur place, et on a des résultats qui sont très très bons. Et on le voit même l'année passée, avec 3 canicules, une sécheresse très intense, on a eu 2 à 3% de pertes, ce qui équivaut à des années normales.
Et on va continuer, Pierre
Athanase. Là où on est plus vieux.
Et on va continuer à parler de cette stratégie donc pour une forêt durable, parce qu'on voit bien là qu'il y a quand même des conceptions de la nature qui non pas s'opposent, mais en tout cas se répondent en tout cas. Et on va se demander s'il faudrait aussi laisser une partie de nos forêts vierges de toute intervention humaine. Le rêve d'une forêt primaire excède autant qu'il fascine. C'est Marguerite Thiam, plus rien n'est grave.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Et on est toujours ensemble jusqu'à 13h sur France Inter pour se poser une question. Comment retrouver une gestion responsable, durable de nos forêts? Toujours en compagnie du premier gestionnaire des forêts privées françaises, Tamouz Elou, de la journaliste Paloma Moritz, du défenseur Thomas Braille et du vice-président de la métropole de Lyon, Pierre Athanase. Et on a reçu énormément de messages d'auditeurs, notamment celui de Denis qui dit « Les forestiers sortent toutes les coupes à blanc, il ne reste rien sur le sol, donc appauvrissement de la fertilité et de l'érosion, et au contraire d'un auditeur qui salue la gestion des forestiers.
Alors je profite pour exprimer mon point de vue qui serait de dire que les sylviculteurs en France, en tout cas, s'apparentent leur métier à un travail d'épicerie fine. C'est du détail qu'on fait dans la forêt, c'est un travail de minutie, tout n'est pas fait en vente en gros ou en gros, tout est vérifié à parcelle près. Donc pour ça, je voudrais vraiment remercier les forestiers français pour effectuer ce travail de détail qui fait dans la forêt française au vu du territoire qu'on a.
Merci à Paul pour cette réaction. Je vous invite aussi à réagir pendant ce direct. Tamouz Elou, vous qui gérez 2,1 millions d'hectares de forêts privées, ça vous semble une bonne image, l'épicerie fine ?
En fait, ce qui est important, c'est de savoir intervenir au bon moment, au bon endroit. C'est ça. Peut-être que je retiens sur ce thème d'épicerie fine. Le forestier qui est formé, il regarde sa forêt et il regarde les enjeux qui s'offrent à sa forêt. Le climat nous oblige à agir. On le voit depuis maintenant. On a une feuille de route, adaptation des forêts, changement climatique, qui a été produite en 2019. Et on voit qu'on perçoit des choses que la société ne voyait pas. Et notre rôle de forestier, c'est de prendre soin de cette forêt, de récolter par endroit, d'entretenir là, de débroussailler. Et toujours avec ce regard de spécialiste qui fait qu'on maintiendra ces forêts vivantes.
Vous avez l'impression d'entretenir la forêt. C'est-à-dire que vous devez la gérer. C'est le rôle de l'homme de gérer sa forêt.
C'est notre responsabilité. C'est même plus que notre rôle. En fait, la société française, et même européenne, a besoin d'avoir du bois pour se loger, pour utiliser dans son quotidien des produits à base de bois. Et comment amener ce bois de façon la plus durable possible, sur le long terme, on raisonne vraiment sur le long terme. Tout à l'heure, on parlait d'arbres qui est entre 40 ans et 150 ans. Qui résonne de nos jours à 150 ans. Donc la responsabilité du forestier, c'est de maintenir une forêt vivante, de produire du bois dont la société a besoin, et de façon le plus professionnelle possible, avec le moins d'impact.
Thomas Braille, une forêt doit rester vivante, elle a besoin de l'homme pour rester vivante, la forêt ?
Écoutez, on va faire un distinguo là, parce que j'ai l'impression qu'on va perdre les auditeurs. Il y a deux sortes de modèles de gestion dans les forêts. Il y a les gestionnaires, les gros gestionnaires, d'accord, qui font de la coupe rase et qui nous mettent des plantations d'arbres en ligne. Ça, c'est très, très, très mauvais pour les forêts. Et vous avez d'autres gestionnaires, comme ProSilva, par exemple, je prends comme exemple, qui font ce que faisait l'ONF il y a quelques années, hein, d'accord. C'est-à-dire, on prend cet arbre au fond là-bas, celui-là, on le garde parce que c'est une niche écologique. Celui-là, là-bas, on va le prélever. Là, on est sur un prélèvement qui est judicieux. On est bien d'accord. Et j'aimerais aussi dire une chose, c'est que moi, je me chauffe au bois. Parce que à un moment donné, on me dépeint un petit peu dans tous les sens. Je me chauffe au bois. J'ai un hectare de forêt que je gère durablement. Je vais pouvoir me chauffer au bois toute ma vie. Mon fils va pouvoir se chauffer au bois toute sa vie avec ces mêmes hectares. Pourquoi ? Parce qu'on le gère durablement. C'est-à-dire qu'on ne prélève que certains bois à certains endroits. C'est ça. Et c'est ce regard-là aujourd'hui. Et ces gros gestionnaires de forêts privées, je suis désolé, mais je vais encore taper sur Alliance Forêt Bois, comme Alliance Forêt Bois qui a pris tout l'ouest de la France, est en train de transformer nos parcelles de feuillus diversifiés à monoculture de Douglas. Et je le constate dans le Tarn. Voilà.
Alliance Forêt Bois, pardon, je ne les connais pas forcément. Tamouz Elou, qu'est-ce que vous pensez de cette société, puisqu'on les accuse dans ce
là, on est encore sur une caricature qui est colportée. Alliance Forêt Bois, c'est un adhérent de mon union. Mais moi, c'est pas ça le propos. Je ne vais pas répondre individuellement sur le cas. La société française a besoin d'avoir du bois. Maintenant, notre enjeu à nous, forestiers, c'est de dire comment est-ce que la forêt peut répondre à notre besoin. J'allais dire que la forêt n'a pas besoin de l'homme. L'homme a besoin de la forêt. Quand je dis l'homme, avec un grand H, on a besoin de la forêt, d'avoir des forêts vivantes. Si on veut se promener dans une forêt morte, avec des risques de branches qui tombent, d'arbres qui tombent, et de faire mourir la grand-mère ou le neveu, bien sûr qu'on n'en veut pas. Personne n'en veut ici. Et je ne dis pas qu'autour de la table, c'est le cas. On a besoin d'avoir des forêts qui abritent la biodiversité. C'est le cas. On a besoin d'avoir la forêt qui produit du bois également. Parce que le bois, on en a besoin pour le transport, des palettes en bois. On a besoin d'avoir du bois pour les charpentes. Pour les auditeurs de France Inter, quand vous venez à la maison de la radio, vous avez le plafond, c'est du bois, une jolie sculpture en bois. On a besoin d'avoir ce bois-là. Et ce bois-là, il est mieux s'il est récolté en France que s'il est récolté à l'autre bout du monde. Il y a une marque là qui s'appelle Bois de France, une association qui porte ce genre de message-là et que je salue. Il y a des chartes régionales qui sont portées par les communes forestières pour dire, voilà, ce bois vient d'une forêt française qui est gérée et entretenue de façon professionnelle.
Mais si la forêt n'était pas entretenue, à quoi ressemblerait-elle ?
Elle serait impénétrable. Elle sera sûrement très jolie, après chacun peut aimer ou pas, mais maintenant on ne pourra pas y aller. Donc c'est-à-dire que pas de vélo, pas de jogging et pas de bois. Donc c'est-à-dire que ce bois dont on a besoin viendra d'une autre forêt. Et le jogger iront dans une autre forêt, tout simplement.
Alors je suis désolé, je m'inscris en faux. À partir du moment où vous avez une canopée qui est très très haute, avec un couvert végétal qui est conséquent, vous pouvez vous promener dans les forêts, d'accord ? Les ronces, ce sont les premières qui arrivent quand vous avez un champ qui est abandonné par un paysan, c'est les ronces qui arrivent. arrive et parmi ces ronces poussent les premiers arbres. Et
une fois que vous avez allez vous prenez avec des ronces.
Et vous avez une canopée qui est très grande, et bien les ronces disparaissent parce que ce n'est pas une plante de lumière. Voilà. Et donc vous pouvez vous promener sous cette nouvelle forêt. Il n'y a pas de problème.
Et justement, on va se projeter dans cet avenir, dans ce rêve fou d'une forêt primaire en France, qui est le rêve du botaniste Francis Allais, mais rêve que partage aussi l'écrivain Alexis Génie, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Alexis Génie. Alexis Génie, vous... Alors, on reste avec vous, Paloma Moritz. Est-ce que ça serait possible, ce rêve de Francis Allais, de, je ne sais pas, réserver peut-être 10% des forêts françaises à une forêt primaire ?
Bah, en fait, aujourd'hui, on sait que, par exemple, les forêts françaises absorbent deux fois moins de CO2 qu'il y a 10 ans. Donc ça, c'est lié aux arbres qui vont croître moins rapidement, donc en moyenne 10% moins rapidement, à la mortalité qui augmente considérablement et aussi aux prélèvements qui ont augmenté. À partir de là, en fait, on va être obligé de préserver cette forêt, de préserver cette ressource qui n'est pas qu'une ressource justement pour du bois, mais qui existe en fait pour elle-même en quelque sorte, et aussi en tant que puits de carbone. Et pour ça, je pense que oui, la préservation de certains espaces, la sanctuarisation de certains espaces est une bonne approche, mais de la même manière que, en fait, on retrouve ça aussi avec les aires marines protégées, par exemple, qui sont des aires dans lesquelles, normalement, alors bon, malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui en France, parce que ce sont un peu des coquilles vides, mais normalement, on ne pourrait pas faire, par exemple, de chalutage en eau profonde, de la surpêche et des choses comme ça. Et ça, en fait, ça permet aussi d'avoir une autre approche en lien avec la biodiversité. Ce que je disais au début sur la crise de la sensibilité, de considérer que le vivant est notre allié et de pas toujours considérer que c'est une ressource à aller exploiter. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, évidemment qu'en fait on a besoin de bois dans notre société, mais est-ce que la question c'est pas aujourd'hui d'essayer d'accorder ce prélèvement en bois à la croissance de la forêt et à ce qu'elle peut nous offrir aussi, et de ne pas prélever plus que ce que la forêt peut donner. Et une dernière chose, c'est qu'en fait on dit on a besoin de bois de la manière qu'on va dire on a besoin d'énergie, on a besoin... Voilà, mais il y a potentiellement, peut-être, avec tout ce qui est en train de se passer avec les effets du dérèglement climatique, une sobriété aussi à organiser sur notre utilisation de bois.
Tamozelou.
Hein. Alors bien sûr, la sobriété, c'est pas que sur le bois, c'est sur tout. Enfin, je pense que tout le monde se rejoint là, on va pas gâcher. Juste pour rassurer tout le monde, en France, le bois qui est récolté, c'est qu'on en a besoin. Et on récolte que la moitié de l'accroissement annuel de la forêt, de ce que produit la forêt. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de forêts en France qu'en 2023. On n'a jamais eu autant de bois en France qu'en 2023. La forêt a progressé de 20% en 30 ans et de 50% en volume. Donc, en fait, on ne récolte pas plus que ce que la forêt nous offre.
Alors, elle a gagné du terrain, mais elle n'est pas forcément en bon état physique. Les arbres ne sont pas en bon état. C'est ça,
mais
le paradoxe.
Il y a certaines régions en France où les forêts émettent plus de CO2 qu'elles n'en absorbent.
Oui, alors justement, Alexis Génie est de retour avec nous au téléphone. Ce rêve de forêt primaire, vous le partagez, de cette nature réensauvagée ?
Oui, alors attention, il faut bien savoir de quoi on parle. Là, on parle d'une expérimentation, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va résoudre les problèmes de la filière bois. C'est le projet de l'association Francis Allais, qui est porté par ce botaniste, et on pourrait penser que c'est finalement le projet d'un monsieur de 85 ans qui veut laisser derrière lui une sorte de monument à la forêt.
Mmh, bien sûr. Voilà. On parle d'une forêt grande comme l'île de Minorque, par exemple, dans l'est de la France.
Ce serait un carré de 25 km de côté. Mmh. Ce serait binational pour que ce soit un projet européen, et c'est négocié avec les États, avec la Commission européenne, etc. L'idée, ce serait de faire quelque chose du côté de la Belgique, Luxembourg, Allemagne, dans ces régions-là. Et finalement, ce grand carré serait indemne de toute activité humaine pour que l'on puisse observer en vraie grandeur les mécanismes d'évolution de la forêt. C'est-à-dire que la forêt, elle a un trésor qui est ses capacités de régénération, ses capacités qu'elle a développées depuis 300 millions d'années. Ça fait pas mal de temps que la forêt se débrouille toute seule sans nous. En Europe, on n'a plus aucune forêt primaire parce que l'Europe est un jardin depuis des milliers d'années. Donc on voudrait reconstituer comme exemple comme sujet d'étude, comme mémorial à la forêt finalement, une forêt qui reviendrait à ses principes de régénération naturelle.
Parce que pour vous, la nature, elle sait très bien se gérer elle-même ?
Oh bah, bien sûr. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut en tirer. C'est vrai que là, on entend sans arrêt, bon, il faut du bois. Oui, en effet, il faut du bois. Après, la question, c'est quelle forêt dans 100 ans ? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'en effet, on peut exploiter le bois, on en a besoin, et c'est évident, mais il faut que ça dure, et que ça dure pas 10 ans, que ça dure 100 ans, 500 ans. On peut espérer que l'humanité durera suffisamment. Donc, la forêt a cette capacité-là de se régénérer tout seul, sans problème. Simplement, il faut pas que les activités humaines dévastent la forêt. Et il faut arriver à trouver un équilibre entre une exploitation, entre des activités humaines et entre les capacités naturelles de régénération de la forêt, et qui sont mis à mal aussi par les problèmes climatiques que nous observons, c'est-à-dire augmentation des températures, diminution des précipitations et du coup développement des ravageurs.
Tamouz Elou, est-ce que la France peut se permettre une telle expérimentation, justement ?
Alors, le projet en lui-même est un pari. C'est assez osé, c'est très ambitieux. On a déjà des situations en France où les forêts ne sont pas gérées. Il y a très peu d'activités humaines, voire quasiment pas. Il y a des exemples, des expérimentations qui sont menées. Je parle à la Massane, par exemple. Ça existe. Maintenant, le projet de Francis Allais, il est sûrement emblématique. Maintenant, penser que pendant 500 ans, aucune activité humaine ne soit exercée dans cette forêt-là, avec une densité de population que nous avons en France, nous ne sommes pas au fin fond des États-Unis ou au milieu de l'Australie, c'est ambitieux maintenant, c'est un pari risqué. Mais nous, ce qu'on voit, c'est par rapport à la science. Ce que nous dit la science, c'est qu'on aura à prendre 4 degrés de plus d'ici 2100. Et que nos forêts vont souffrir et qu'il faut les adapter. Et donc, du coup, si on ne fait rien, pour nous, c'est pas la solution. Donc, on estime que si on ne fait rien, ça va mal se passer. Et notre rôle, c'est de maintenir une forêt pour nos enfants et nos petits-enfants.
Paloma Moritz, justement, on a dit l'année dernière, il y a eu des hectares et des hectares qui ont brûlé dans des feux de forêt, que les forêts étaient mal entretenues. Est-ce que, voilà, une forêt primaire, ça peut être aussi plus d'incendies ?
Plus d'incendies pour les dans les
bah oui c'est-à-dire qu'on a dit mais
oui moins d'incendies
oui. non pardon excusez-moi oui. On a dit que les forêts n'étaient pas assez bien entretenues et que c'est pour ça qu'elles avaient brûlé. On a fait beaucoup cette accusation l'année dernière.
Il y a eu cette accusation là, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça avec beaucoup de fausses données, etc. Mais en fait, en réalité, l'accusation était plutôt autour de la gestion des forêts et notamment de leur biodiversité. C'est-à-dire quand même, ce dont on s'est rendu compte, c'est que plus il y avait de biodiversité dans une forêt, mieux elle résistait aux feux de forêt. Si.
C'est une logique implacable.
Alors, ne parlez pas tous en même temps.
Je suis ingénieur forestier et je regarde le terrain. Le feu qui s'est déclenché à la Teste de Buch il y a maintenant un an, c'est l'exemple d'une forêt qui est rêvée pour certains et qui existe dans beaucoup d'endroits en France et sur lesquels on s'occupe pour un certain nombre d'entre nous. Il y a du feuillu, il y a du résineux, il y a des grands arbres, il y a des petits arbres. C'est la première forêt qui a brûlé. Maintenant, la question des incendies, je rappelle qu'il y a 9 cas sur 10, c'est dû à une activité humaine. Quand vous avez des canicules, des épisodes de sécheresse, et qu'un détraqué met le feu, soit volontairement, soit involontairement, que votre forêt soit feuillue ou résineuse, petite ou grande, elle brûle.
Oui, mais la raison pour laquelle ces forêts vont beaucoup plus brûler, c'est aussi parce que les sols sont complètement arides à cause de la sécheresse, que les arbres sont rendus beaucoup plus vulnérables, qu'ils n'ont pas assez d'eau, etc.
Le rôle du forestier, c'est justement d'arriver à maintenir ces arbres en bonne santé.
Alors, s'il vous plaît, ouais, parce que là, c'est un peu trop sur le modèle qui me plaît pas beaucoup. Je suis désolé, parlons du pain maritime. Le pain maritime, c'est juste bourré de terpènes. Ce sont des molécules grandement inflammables, avec un tapis d'aiguilles qui fait plus de 30-40 cm, qui arrive jamais. Une fois que ça mine là-dessous, ça s'éteint jamais. C'est des torches, quoi. Donc, après, quand on vient de dire qu'une forêt diversifiée, elle brûle aussi bien que le pin maritime, je suis désolé. Non, vous avez des pare-feux. Quand vous avez des feuillus, c'est un pare-feu parce qu'il est beaucoup plus humide qu'un résineux. Non, je veux pas laisser dire des bêtises comme ça. Enfin, moi, c'est pas possible. Quoi.
Pierre Athanas, dans la région lyonnaise, justement, vous aviez essayé d'installer quand même quelques hectares de forêt vierge, mais vous dites que l'industrie du bois ne vous a pas laissé faire.
Oui, alors déjà, je vais revenir un petit peu sur quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure de la part de M. Hellou. Non, une forêt primaire, ce n'est pas impénétrable. Je suis passionné de forêt, je voyage, je vais en Europe centrale régulièrement voir des forêts, que ce soit Bialoveza en plaine, que ce soit en Slovaquie, que ce soit en Roumanie. Et les forêts, plus elles sont vieilles, plus elles sont pénétrables. Au contraire, les arbres sont gros et on peut circuler sans aucun problème. Elles ne sont pas impénétrables. Il faut arrêter cette espèce de lieu commun qui est complètement faux.
Mais, effectivement,
ne vous coupez pas la parole. Laissez-le parler.
À la métropole de Lyon, j'avais des activités associatives et pendant des années, j'ai essayé de collaborer. Alors, on avait à l'époque une DRAF qui était très ouverte, hein, directrice régionale de l'agriculture et de la forêt, qui était très ouverte à ces sujets-là. On a fait énormément de réunions avec les communes forestières, avec l'ONF, avec la forêt privée, pour essayer de pouvoir créer un réseau de forêts naturelles en libre évolution, et l'objectif étant de 10%. Et il y a eu, à part l'ONF, qui a effectivement bien joué le jeu, et ça, je tiens vraiment à saluer le travail de l'ONF, qui est vraiment l'établissement public qui est en péril en ce moment. Il y a eu un rapport cette semaine du ministère de l'Agriculture pour parler de la forêt. Il n'y a pas une ligne sur l'ONF, on ne parle que de la forêt privée. On a un établissement public qui doit évoluer, bien sûr, mais qui doit absolument être conservé. Et on est en train de le tuer à petit feu avec des gens qui sont en burn-out régulièrement, avec, il y a 3-4 ans, des séries de suicides, notamment dans l'est de la France, qui sont absolument énormes. Donc, pour en revenir à ce réseau-là, des réunions sans arrêt, vraiment, j'ai passé un temps fou, et j'étais bénévole, je le prenais sur mes congés, pour n'aboutir à rien du tout, ou pratiquement, si ce n'est effectivement l'ONF qui a créé plus de réserves biologiques intégrales. Et encore une fois, je le dis, elles ne sont pas impénétrables. Et ce sont non seulement des réservoirs extraordinaires de biodiversité, de carbone, mais des lieux de détente. Parce que quand on est dans une forêt comme ça, ce sont vraiment des milieux qui sont apaisants. Et pour en revenir au carbone, vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure, on parle toujours du carbone qui est dans les arbres. Effectivement, c'est important. Mais il y a tout le carbone qui est dans les sols forestiers. On a plus de carbone dans les sols forestiers que dans les troncs et les branches des arbres. Et lorsqu'on fait des coupes à blanc, ce carbone forestier repart dans l'atmosphère. Donc, effectivement, et là-dessus, Thomas Braille a complètement raison, prélever des arbres, comme le préconise ProSilva, en faisant de la futaie irrégulière et tout, c'est intéressant parce que ça va produire les arbres dont on a besoin pour différents matériaux. Mais faire des coupes à blanc, c'est une hérésie. Ça l'était pour des raisons biologiques avant, ça l'est pour des questions climatiques aujourd'hui.
Et on comprend bien que tout est une question d'équilibre et on continue ce débat. On sort des sentiers battus avec Jungle Dominoes.
France Inter, le débat de midi. Paola Puerari.
Et on est toujours ensemble jusqu'à 13h sur France Inter pour se demander quelle est la valeur de notre forêt économique, écologique et sociale. Tout est une question d'équilibre et nous avons reçu un message de Marie, une auditrice qui nous dit « Il faut réencourager les jeunes et les moins jeunes à se former au métier de bûcheron à la main et dans le respect des principes écologiques. » Thomas Braille.
Je valide Marie, très bien. Bon point pour Marie.
Également.
Oui,
également aussi.
Tout à fait.
Bien sûr. Non, mais je pense que voilà. Enfin, le débat va pas tarder à se terminer. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut pas confondre le modèle coupe rase avec plantation d'arbres qui dégrade nos forêts. Et puis une fois de plus, ces modes de gestion, on a besoin du bois, on a besoin des forêts résilientes pour passer les réchauffements climatiques. Donc j'espère qu'aujourd'hui les citoyens, de toute façon, si les modes de pratique qui sont assez désastreux à mon sens de coupe rase et de transformation de forêts, il n'opère pas dans la tête des gestionnaires de forêts un changement radical, eh bien ce seront les citoyens qui le feront, et c'est déjà le cas. Les gens en ont ras-le-bol, en fait, quoi. Voilà.
Paloma Moritz, l'enjeu est vital.
L'enjeu est vital parce que en fait aujourd'hui on a besoin des forêts pour énormément de choses et il faut absolument les préserver, à la fois pour préserver les espèces végétales, les espèces animales qui y vivent et qui sont de plus en plus en danger en fait à cause des effets du dérèglement climatique, des sécheresses rapides à répétition et des inondations, mais aussi les protéger pour nous protéger nous-mêmes parce que ces forêts sont des puits de carbone, que justement elles ont perdu de moitié leur capacité d'absorption en même pas 10 ans. On n'ose même pas imaginer ce que ce sera dans les prochaines années. Et en fait, on compte aussi sur ce puits de carbone pour respecter nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc préserver nos conditions de vie et nous adapter aussi au réchauffement climatique. Donc c'est un peu tout l'enjeu qui est là. Et le problème, c'est que je pense que voilà, il y a peut-être pas assez de conscience de ce qui est réellement en train de se passer et de à quel point les effets du dérèglement climatique et de l'extinction de la biodiversité sont en train de menacer très très gravement nos forêts aujourd'hui en France.
Tamouz Elou, il y a de plus en plus de Français qui se cotisent, qui achètent des parcelles de forêt en commun. C'est un bon investissement.
Ben c'est on est ravi,
on est ravi de savoir du futur et de l'avenir.
Il y a un intérêt sur la forêt et le bois, donc ça c'est vraiment très bien. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a la transition écologique ne se fera pas sans la forêt ni le bois. Il faut vraiment avoir ça en tête. On est sur une économie circulaire, locale. Quand on consomme des produits en bois, ben c'est moins de plastique. Donc, je ne vais pas me faire des amis ici, mais bon, c'est comme ça. Et on en a à disposition en France. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et les métiers du forestier, ce sont des métiers qui sont fabuleux. Ils sont décriés par certains, notamment certains qui vous soutiennent.
Pas tous. Je suis désolée. Il n'a pas arrêté de faire des distinguos entre les filières massives et industrielles
et je me chauffe au bois.
Voilà.
Et c'est très bien, mais en fait, le forestier n'est pas une caricature. Nous travaillons dans les coopératives, nous travaillons avec l'ONF, nous travaillons avec les experts, sur des forêts qui sont gérées sur le mode pro-silva, sur le mode futaie jardinée, futaie régulière, futaie irriguée. Il y a toute une palette de solutions. Et j'allais dire, nous sommes très humbles. On travaille avec humilité, on travaille sur des projets de recherche-développement. C'est la forêt qui dicte nos actions. On ne peut pas planter telle essence n'importe où. T'as l'arbre n'importe où, c'est pas vrai. On va pas planter des cocotiers à Dunkerque aujourd'hui. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le climat du Maroc et du Portugal va arriver en France. Et nous, notre rôle de forestier aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'adapter cette forêt pour dire, mais la forêt du Portugal, la forêt du Maroc, c'est sûrement ce qui va nous arriver dans 100 ans.
Juste Thomas dire Braille. Et préciser que nous ne sommes pas parfois obligés de planter. La forêt se régénère naturellement. Elle a 280 millions d'années. On a 200 000 ans en Homo sapiens. À quel moment la forêt a eu besoin de nous? Quand j'entends dire que si on ne gère pas la forêt, elle meurt, écoutez, je pense que, voilà, comme vous l'avez dit, Monsieur Tamouz, il va falloir retrouver beaucoup d'humilité, voilà.
Juste une dernière petite chose, je pense, qui peut intéresser les personnes qui nous écoutent et qui est importante, c'est qu'en fait, les forêts sont aussi assez magiques parce que il y a des molécules qui sont émises par les arbres, donc les phytoncides, qui stimulent notre système immunitaire. Donc en fait, se balader en forêt, c'est bon pour l'immunité. Et il y a aussi les feuilles qui émettent des ions négatifs, donc qui font baisser le taux de cortisol dans le sang et donc nous permettent aussi d'être moins stressés et plus heureux. Donc allez vous balader en forêt.
Eh bien, on va y aller justement, puisque tout à l'heure, eh bien, Francis Allais sera l'invité, le botaniste dont nous parlions, donc, qui est à l'initiative de ces forêts primaires, sera l'invité du temps d'un bivouac. Donc, c'est tout à l'heure sur France Inter, si vous voulez poursuivre le débat. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus débattre à cette table. Le débat de midi, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous et longue vie aux arbres citoyens. Il est temps pour moi de vous souhaiter un bel été, puisque dès lundi, vous retrouverez le talentueux Jean-Mathieu Pernin aux commandes du débat de midi. L'heure est aussi de remercier mon équipe de choc qui m'a aidé à penser cette émission, à l'écrire aussi. Merci à Florence Gimalac qui a chefé avec brio et dont l'expérience est capitale. Merci à Constance Villanova, aussi vive, pointue et solide que du titane. Elle a fourni un travail atomique. Merci à Loïs Nollet et Savannah Ruellan à qui je souhaite et je devine une longue carrière. À la réalisation mon rock et ma douceur Étienne Bertin, à la technique Benjamin Troncet. Et chers auditeurs, j'ai été très heureuse de voyager avec vous cet été sur les ondes de France Inter. On était bien. J'espère à bientôt, à suivre le journal de 13h.